Chapitre 59, la fausse science, robe de lumière moderne de Satan. La fausse science est l'un des moyens dont Satan s'est servi dans les cours célestes, et il l'emploie encore aujourd'hui. Les assertions erronées qu'il a présentées aux anges, ses théories scientifiques subtiles en séduisirent un grand nombre et les détournèrent de leur loyauté. Ayant perdu sa place dans le ciel, Satan vint tenter nos premiers parents. Adam et Ève cédèrent à l'ennemi, et à cause de leur désobéissance l'humanité fut éloignée de Dieu et la terre, séparée du ciel. Si le premier couple n'avait jamais touché à l'arbre défendu, le Seigneur lui aurait communiqué la science sur laquelle ne reposait aucune malédiction et qui lui aurait procuré la joie éternelle. Tout ce qu'il gagna par sa désobéissance, ce fut une connaissance du péché et de ses conséquences. Les ruses par lesquelles Satan séduisit nos premiers parents sont les mêmes que celles qu'il emploie aujourd'hui. Il inonde le monde de fables agréables. Par tous les moyens dont il dispose, il cherche à empêcher les hommes d'obtenir cette connaissance de Dieu qui mène au salut. Lorsque l'erreur apparaît comme une vérité. Nous vivons à une époque de grande lumière. Mais beaucoup de ce qu'on appelle lumière ouvre la porte à la sagesse et aux artifices de Satan. Bien de choses sont présentées sous l'aspect de la vérité, et cependant il faut les considérer avec soin, avec beaucoup de prière, car elles peuvent être des ruses de l'ennemi. Le sentier de l'erreur est souvent près du sentier de la vérité. On le distingue parfois difficilement de celui qui conduit à la sainteté et au ciel. Mais éclairé par le Saint-Esprit, on peut voir où il s'en écarte. Après un certain temps, les deux sont nettement séparés. L'idée selon laquelle Dieu est une essence immanente à toute la créature est une des tromperies les plus subtiles de Satan. Elle nous donne une fausse conception de Dieu, et porte atteinte à sa grandeur et à sa majesté. Les théories panthéistes sont contraires aux enseignements de la parole de Dieu. Ces théories perdent les âmes. Les ténèbres sont leur élément, et la sensualité, leur sphère. Elles flattent le cœur naturel et donnent libre cours à ses inclinations. Les accepter, c'est se séparer de Dieu. Notre situation est devenue antinaturelle à cause du péché. La puissance qui nous rétablira doit être surnaturelle, sinon elle n'aurait aucune valeur. Ce n'est que par la puissance de Dieu que les cœurs peuvent être soustraits à l'emprise du mal. Seul le sang du crucifié opère la purification du péché. Seule sa grâce peut nous rendre capables de résister aux tendances d'une nature corrompue, et de les vaincre. Les théories spiritualistes au sujet de la divinité annulent cette puissance. En effet, si Dieu est une essence inhérente à toute la nature, alors il habite dans tous les hommes. Et pour parvenir à la sainteté, ceux-ci n'ont qu'à développer la puissance qui est en eux. La conclusion logique de ces théories, c'est qu'elles réduisent à néant le christianisme. La rédemption n'est plus indispensable, et l'homme devient son propre sauveur. D'après elles, la parole de Dieu est inefficace, et ceux qui les acceptent s'exposent au danger de considérer toute la Bible comme une fiction. Ils peuvent estimer que la vertu est préférable au vice. Mais en refusant la souveraineté de Dieu, ils mettent leur confiance dans leur propre force, laquelle est nulle devant Dieu. La volonté humaine, abandonnée à elle-même, n'a aucun pouvoir réel pour résister au mal et pour le vaincre. Les défenses de l'âme sont renversées. L'homme ne possède plus de barrières contre le péché. Après avoir rejeté les restrictions de la parole et de l'Esprit de Dieu, il ne sait jusqu'où il peut tomber. Ceux qui persistent dans ces théories ruineront leur expérience religieuse. Ils n'auront plus aucune communion avec Dieu, et perdront la vie éternelle. Une tentative de séduction des élus eux-mêmes. Les sophismes concernant Dieu et la nature, qui inondent le monde de scepticisme, sont inspirés par les anges déchus. Celui-ci étudie la Bible. Il connaît la vérité nécessaire à l'humanité, et il cherche à distraire les esprits des grands faits qui ont pour but de les préparer aux événements qui vont se produire dans le monde. Après 1844, nous eûmes à faire face à toute espèce de fanatisme. Des témoignages de blâme me furent donnés contre quelques personnes attachées à certaines théories spiritualistes prédominantes. Les enseignements impies engendrent le péché. Ils sont l'appât dont se sert le père du mensonge pour séduire les hommes et les endurcir dans la pratique de l'impureté. Les expériences du passé se répéteront. Les superstitions sataniques prendront des formes nouvelles. L'erreur sera présentée d'une manière agréable et flatteuse. De fausses théories, mélangées à quelques vérités, seront présentées au peuple de Dieu. C'est ainsi que Satan cherchera à séduire les élus même, s'il était possible. Des influences très séduisantes étant exercées, les esprits seront comme hypnotisés. Toutes les formes de la corruption, comme au temps des antédiluviens, se donneront libre cours et captiveront les esprits. L'exaltation de la nature considérée comme Dieu, les divagations de la volonté humaine, l'opinion des impies, tout sera employé par Satan pour atteindre son but. Le plus triste, c'est que, placés sous cette influence décevante, les hommes auront l'apparence de la piété sans être en communion réelle avec Dieu. Comme Adam et Ève, qui mangèrent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, beaucoup se nourrissent aujourd'hui de théories erronées. De même que, dans le jardin d'Éden, Satan cacha son identité à nos premiers parents en leur parlant par l'entremise du serpent, les forces du mal se parent aujourd'hui de ces fausses théories comme d'un vêtement attrayant. Elles font pénétrer dans les esprits ce qui, en réalité, est une erreur mortelle. L'influence hypnotique de Satan s'exercera sur ceux qui abandonnent la parole de Dieu pour se tourner vers des fables. Ceux qui ont le plus de lumière sont particulièrement visés par Satan. Il sait que s'il peut réussir à les séduire, ils couvriront, sous sa direction, le péché de vêtements de justice, et détourneront de la piété un grand nombre de personnes. Je dis à tous. Tenez-vous sur vos gardes, car, semblable à un ange de lumière, Satan assiste à toutes les réunions des ouvriers du Seigneur, il se trouve dans toutes les églises, et s'efforce d'attirer les membres de son côté. Je suis chargé de donner au peuple de Dieu cet avertissement, ne vous abusez point, on ne se moque pas de Dieu. Le plan de Satan pour la déification de la nature. En considérant les lois de la matière et de la nature, beaucoup perdent de vue, s'ils ne la nient pas, l'intervention directe et constante de Dieu. Ils expriment l'idée que la nature agit indépendamment de Dieu, possédant en elle-même ses propres limites et sa propre puissance par laquelle elle opère. Dans leur pensée, il y a une nette distinction entre le naturel et le surnaturel. Celui-ci est considéré comme ayant des causes ordinaires, reliées à la puissance divine. Une force vitale est attribuée à la matière, et à la nature ainsi déifiée. On suppose que la matière est placée dans certaines conditions et abandonnée à des lois que Dieu lui-même ne saurait changer. Que la nature est revêtue de certaines propriétés et soumise à des lois, accomplissant ainsi l'œuvre ordonnée aux origines. Tout cela est une fausse science. Il n'est rien dans la parole de Dieu pour la soutenir. Le Seigneur n'annule pas ses lois, mais il opère constamment par elles, les employant comme ses instruments. Elles ne font rien par elles-mêmes. Dieu agit perpétuellement dans la nature. Elle est sa servante, et il la dirige comme il lui plaît. Dans son œuvre, elle témoigne de la présence intelligente et active d'un être qui dirige toutes choses selon sa volonté. Ce n'est pas par une force originelle inhérente à la nature que, année après année, la terre fournit ses richesses et poursuit sa marche autour du soleil. Une puissance infinie, celle de Dieu, est perpétuellement à l'œuvre pour guider notre planète dans son mouvement de rotation. Le mécanisme du corps humain ne peut être pleinement compris. Il présente des mystères qui déconcertent le plus intelligent. Ce n'est pas comme mécanisme qu'il fonctionne, une fois mis en marche, que les pulsations du cœur continuent, et que la respiration s'effectue. C'est en Dieu que nous avons le mouvement, la vie et l'être. Chaque respiration, chaque battement du cœur est une preuve constante de la puissance d'un Dieu toujours présent. Il est des hommes d'une grande puissance intellectuelle qui ne peuvent comprendre les mystères de Jéhovah, tels qu'ils sont révélés dans la nature. L'inspiration divine pose de nombreuses questions auxquelles les plus grands savants ne peuvent répondre. Ces questions ne sont d'ailleurs pas posées pour que nous y répondions, mais pour attirer notre attention sur les profonds mystères de Dieu et nous enseigner que notre sagesse est limitée. Que, dans la vie journalière, il est bien des choses autour de nous qui sont au-dessus de la compréhension d'un esprit borné. Que le jugement et les desseins de Dieu sont hors de notre portée. Sa sagesse est insondable. L'éducation qui commence ici-bas ne sera pas complète en cette vie, elle se poursuivra pendant l'éternité, et ira toujours en progressant, sans être jamais achevée. Jour après jour, les œuvres merveilleuses de Dieu, les preuves de sa puissance miraculeuse en créant, et en soutenant l'univers, ouvriront à l'esprit de nouvelles beautés. À la lumière qui procède du trône, les mystères disparaîtront, et l'âme sera remplie d'admiration devant la simplicité des choses qu'elle n'avait jamais comprises auparavant. Avertissement contre les religions à sensation. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, dans la cause de Dieu, ce sont des hommes pieux, fermes dans les principes et ayant une claire conception de la vérité. Il m'a été montré que ce dont on a besoin, ce ne sont pas des doctrines nouvelles et fantaisistes, ni des théories humaines. Ce qu'il faut, c'est le témoignage d'hommes qui connaissent et qui pratiquent la vérité, d'hommes qui comprennent la mission dont fut chargé Timothée et qui y obéissent, prêchent la parole, insistent en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Marchez avec fermeté et décision, vos pieds chaussés de l'évangile de paix. Soyez persuadés que la religion pure et sans tache n'est pas une religion à sensation. Dieu n'a chargé personne de faire naître le goût des doctrines et des théories spéculatives. Mes frères, écartez ces choses de votre enseignement. Ne leur permettez pas de s'introduire dans votre expérience religieuse. Ne les laissez pas gâter l'œuvre de votre vie. Le besoin de réveil à une vie spirituelle. J'ai été chargé de dire à notre peuple, suivons le Christ. N'oublions pas qu'il doit être notre modèle en toutes choses. Nous devons soigneusement nous tenir à l'écart des idées qui ne sont pas contenues dans son enseignement. J'en appelle à nos prédicateurs, qu'ils s'assurent que leurs pieds sont bien fermement posés sur le fondement de la vérité éternelle. Prenez garde à ne pas suivre vos impulsions en vous croyant inspiré par le Saint-Esprit. Certains d'entre nous courent ce danger. La parole de Dieu nous presse d'être solides dans la foi et capables de rendre compte à qui nous interroge, des raisons de notre espérance. L'ennemi cherche à distraire les esprits de nos frères et sœurs de l'œuvre qui consiste à préparer un peuple qui restera fidèle à Dieu dans les derniers jours. Ces sophismes sont destinés à détourner les esprits des dangers et des devoirs de l'heure. En les suivant, on est amené à sous-estimer la lumière que le Christ est venu donner du ciel à Jean pour son peuple. On enseigne alors que les scènes qui se déroulent sous nos yeux ne méritent pas qu'on leur accorde tant d'attention. On rend inefficace la vérité qui est pourtant d'origine divine et on prive le peuple de Dieu du bénéfice de l'expérience du passé en le nourrissant d'une fausse science. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y. Le Seigneur désire que le témoignage du passé soit renouvelé. Il veut un réveil dans la vie spirituelle. Les énergies spirituelles de son peuple ont été longtemps endormies, mais il doit y avoir une résurrection de cette morte apparente. En priant et en confessant nos péchés, nous devons préparer le chemin du roi. De cette façon, la puissance de l'Esprit viendra sur nous. Il nous faut une nouvelle Pentecôte. Elle viendra, car le Seigneur a promis d'envoyer son Esprit pour nous donner la puissance qui gagne les batailles. Des temps périlleux sont devant nous. Tous ceux qui connaissent la vérité devraient se réveiller et se mettre entièrement corps, âme et esprit sous les ordres de Dieu. L'ennemi est attaché à nos pas. Nous avons besoin d'avoir les yeux bien ouverts et de nous garder de ses assauts. Revêtons-nous de toute l'armure de Dieu. Suivons les directions que le Seigneur nous a données par l'esprit de prophétie. Aimons la vérité et obéissons-lui. Cela nous sauvera des déceptions qui nous attendraient si nous acceptions l'erreur. Dieu nous a parlé par sa parole. Il nous a parlé par les témoignages adressés à l'Église et par les ouvrages qui nous ont éclairés sur nos devoirs et sur les positions que nous devons occuper maintenant. Il faut prendre garde aux avertissements qui ont été donnés, ligne après ligne, précepte après précepte. Si nous les méprisons, quelle excuse aurions-nous à présenter? Je supplie ceux qui travaillent pour Dieu de ne pas considérer comme authentique ce qui est falsifié. Que le raisonnement humain ne prenne pas la place de la vérité qui sanctifie. Dieu désire allumer le flambeau de la foi et de l'amour dans le cœur de son peuple. Que ces théories erronées ne soient pas reçues par un peuple qui doit se tenir sur le solide fondement de la vérité éternelle. Dieu nous invite à être fermes sur les principes qui procèdent d'une autorité qu'on ne saurait remettre en question. L'amour et la connaissance de la parole, notre sauvegarde. Beaucoup d'adventistes qui ont compris depuis longtemps la vérité sont durs, tranchants, prêts à critiquer tout ce qui se fait. Assis comme juges, ils prononcent des sentences sévères contre tous ceux qui n'épousent pas leurs idées. Dieu leur demande de descendre de leur piédestal et de s'humilier devant lui, par le repentir et la confession des péchés. Il leur dit, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Ils cherchent à obtenir la première place, et par leurs paroles et par leurs actes, ils attristent bien des cœurs. Le Christ demande à son peuple de croire et de mettre en pratique sa parole. Ceux qui la reçoivent et se l'assimilent, la faisant participer à chacune de leurs actions, lui permettant d'influencer chaque trait de leur caractère, grandiront dans la force de Dieu. Leur foi s'avérera d'origine divine. Ils ne s'égareront pas dans les sentiers de l'ennemi. Leur religion ne deviendra pas une affaire de sentiments et d'émotions. Devant les anges et les hommes, ils se tiendront debout en chrétiens solides et conséquents. Dans l'encensoir d'or de la vérité telle qu'il nous est présenté par les enseignants du Christ, nous avons ce qu'il faut pour convaincre et convertir les âmes. Proclamer dans la simplicité de Jésus, les vérités qu'il est venu apporter au monde, et l'on sentira la puissance de votre message. Ne vous faites pas les avocats de théories que le Christ n'a jamais mentionnées, et qui n'ont pas de fondement biblique. Nous avons de grandes et de solennelles vérités à exposer. Il est écrit, c'est cela seulement que nous devons apporter à chaque âme. Allons à la parole de Dieu pour être guidés par elle. Recherchons ce que dit le Seigneur. Nous en avons assez des méthodes humaines. Une intelligence entraînée seulement à la science du monde sera impuissante à comprendre les choses de Dieu. Mais la même intelligence, convertie et sanctifiée, verra la puissance divine de la parole. Seul un esprit et un cœur purifiés par l'opération du Saint-Esprit peuvent discerner les choses célestes. Le besoin de soumission totale. Mes frères, au nom du Seigneur, je vous supplie de vous éveiller au sentiment de votre devoir. Soumettez vos cœurs à la puissance du Saint-Esprit, et vous saurez comprendre les enseignements de la parole et les choses profondes de Dieu. Le témoignage du Christ, témoignage particulièrement solennel, doit être proclamé. On trouve dans Apocalypse des promesses précieuses et encourageantes ainsi que des avertissements des plus sérieux et des plus solennels. Que ceux qui prétendent connaître la vérité lisent le témoignage donné par le Christ à l'apôtre Saint Jean. Là, il n'y a ni fantaisie, ni erreur scientifique, mais la vérité qui concerne notre bien présent et futur. Pourquoi mêler la paille au froment? Le Seigneur vient bientôt. Les sentinelles qui se tiennent sur les murs de Sion sont appelées à s'éveiller au sentiment des responsabilités que Dieu fait reposer sur elles. Que, par la puissance de l'Esprit, elle donne au monde le dernier message d'avertissement, et fasse savoir à quelle heure de la nuit nous sommes parvenus. qu'elles invitent hommes et femmes à sortir de leur léthargie, de peur qu'ils ne s'endorment du sommeil de la mort.